Bonjour, merci d'être au rendez-vous à plus de 2 mois de l'élection présidentielle en France. Nous allons parler d'Emmanuel Macron aujourd'hui avec notre invité Olivier Mongin qui, avec Lucie Schmitt, vient d'écrire un essai qui s'intitule « Emmanuel Macron à contre-temps ». Il ne s'agit pas d'un ouvrage biographique ou étroitement politique, mais d'une réflexion sur le moment Macron, comme on dit, dans la démocratie enfiévrée et frénétique à la française, comme le notent les auteurs, à une époque précise, celle d'une démocratie fragilisée de l'intérieur et de l'extérieur, dans un univers qui pratique la fuite en avant technique tout en s'accoutumant aux guerres visibles et invisibles. Fin de citation. Nous avons donc le plaisir de vous proposer un nouveau numéro du magazine Idées, celui qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Un magazine que vous pouvez télécharger sur notre site, votre moteur de recherche préféré, ou écouter par exemple sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Olivier Mongin.
Bonjour, merci de votre invitation. C'est très plaisir d'être ici.
Ah, je suis ravi de vous retrouver également. Vous êtes philosophe, éditeur, ancien directeur de la revue Esprit. Votre réflexion d'homme curieux s'intéresse à beaucoup de choses, aux passions démocratiques, à la vie intellectuelle en général, à l'œuvre de Paul Ricoeur. D'ailleurs, vous êtes en train de préparer un travail sur Paul Ricoeur. Et le cinéma, par exemple. J'ai par exemple sous les yeux votre livre intitulé « Visages de la France, les acteurs images d'une nation », un ciné-roman. Vous avez une curiosité tous azimuts.
Non, je pense que tout est lié quand même, les images, les idées.
Et les sons.
Ça permet de réfléchir un peu sur, nous allons en parler, l'imaginaire historique d'une société. Et justement, que ce soit Belmondo ou Depardieu, ils disent quelque chose de notre société, au-delà des films qu'ils ont pu faire les uns et les autres.
Alors ce livre sur Emmanuel Macron, qui va être au cœur de notre conversation, est une réflexion, je le disais, qui n'est pas étroitement politique.
Oui, c'est une réflexion un petit peu sur le moment France, je dirais. C'est plutôt un livre sur la France par rapport à l'Europe, par rapport au monde. C'est un livre aussi de deux personnes qui sont non pas décontenancées, mais un peu inquiets du devenir de la démocratie. Parce qu'au fond, si on regarde un peu ce qu'a été le moment Macron, en étant rapide, on peut évoquer chaque phase. On a, un an après son arrivée, on a un grand moment de déstabilisation. C'est l'affaire Benalla. C'est-à-dire, c'est le pouvoir du haut qui est fragilisé par une affaire, parce que là, on ne va pas revenir. Mais donc, on a un pouvoir du haut qui perd déjà beaucoup de sa légitimité. Et la légitimité en démocratie, c'est fondamental. Ensuite, on a le grand débat issu du mouvement des Gilets jaunes, qui est compliqué, parce qu'on a bien vu que ce n'est pas qu'un mouvement social. C'est un mouvement qui marque une coupure entre le haut et le bas, entre Paris, la province, entre la capitale, l'État et les territoires. On y reviendra peut-être aussi. Donc c'est un deuxième moment où les choses se compliquent encore. Le troisième moment, il est bien évident, c'est le Covid. Mais le Covid, pour moi, comme pour trop peu de gens, je pense, le Covid, ce n'est pas une affaire franco-française. Le Covid, c'est le moment où il serait peut-être temps que la France prenne le tournant de la mondialisation. Mais là, il faut s'arrêter sur les mots. Et le problème, c'est que dans notre société de communication, on barre dans tous les sens, on n'argumente pas beaucoup. Et le mot mondialisation, il est encore utilisé, même par la presse, et la meilleure, comme la mondialisation économique. Or, moi, je pense, comme beaucoup de gens, qu'il y a très longtemps que nous avons tourné, que l'histoire avance à un rythme mondialisé qui est porté essentiellement par les techniques et la politique, et que ce n'est pas la mondialisation économique qui fait le monde d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie. Et puis ici, à RFI, je ne vais pas appeler à la décroissance pour l'Afrique, hein, bien entendu. Donc on a ce moment très important de prise de conscience de ce que c'est qu'aujourd'hui, pour un pays comme la France, qui se veut toujours un peu universaliste, toujours un peu modèle, et puis pour l'Europe, de rentrer dans le cours du monde. Et enfin, on a eu, moi je pense que c'est très important, on a eu Kaboul, on a eu le retrait américain, on a eu quand même le constat que imposer la démocratie de l'extérieur, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et à un moment même, on découvre que ce qu'on peut appeler, comme le fait un chercheur que j'aime beaucoup, Hamid Bozarslan, qui est un exilé politique kurde, la démocratie, elle est fatiguée de l'intérieur, parce qu'elle ne prend peut-être pas assez en compte la fragilité de la démocratie, mais elle est aussi, on le voit très très bien aujourd'hui, et au sein même de l'Europe, elle est attaquée de l'extérieur.
Hein. La démocratie à l'heure de l'antidémocratie.
La démocratie à l'heure de l'antidémocratie, et là je me permets une petite incise, j'ai insisté quand même, et c'est très important d'y insister, parce que souvent, il y a un malentendu là-dessus. Quand je dis la mondialisation, ce n'est pas que la mondialisation économique. Il faut quand même rappeler que ça va faire plusieurs décennies qu'on part du principe que la mondialisation économique, l'ouverture du marché tous azimuts, elle devait accompagner la démocratisation des pays qui s'ouvraient au marché, à commencer par la Chine. Alors là, je dois dire, à la revue Esprit, et c'est toujours le cas maintenant, on a toujours, et là influencé par des gens comme Pierre Asner, pour qui je redis ma grande admiration, on n'a jamais lâché l'idée politique. On a appris au XXe siècle que le politique, c'était, il tenait toujours l'économique. Et là, tout d'un coup, on a lâché le politique au profit simplement d'une vision économique. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, qu'il ne faut pas que l'Afrique se développe. Mais j'insiste là-dessus, je m'arrête. Il y a une idéologie économiste qui nous empêche de voir ce qu'est le devenir politique du monde. Et la Chine est là l'exemple, avec en plus le numérique, d'une dictature numérique qui nous pose des problèmes énormes pour l'avenir.
Et ce moment Macron, ce quinquennat Macron qui s'achève, Olivier Mongin, montre bien cette évolution, cette rupture du tout économique au retour, en quelque sorte, à la politique.
Tout à fait. Alors là, sur Macron, moi, je fais partie des gens qui, dès le début, pour l'avoir un peu connu, on dit que c'est un machiavélien. Il avait fait un travail de philosophique sur Machiavel, je pense. Et il y a une erreur sur Macron de toujours en fait. Il a tout fait pour. Hein, beaucoup d'erreurs de communication. Mais
oui, vous soulignez le rapport tendu qu'il a eu avec les Français depuis le début, quasiment.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Macron, on l'a vu comme le banquier. C'est une bête politique. On le voit bien on le voit bien encore maintenant. C'est une bête politique. Son emmerdez-vous, il s'adresse à Madame Pécresse. Il ne s'adresse pas du tout à la France entière. C'est compliqué, encore faut-il le dire. Mais donc, c'est une bête politique et qu'on a vu uniquement à travers, mais il l'a cherché, à travers Monsieur le banquier qui croit au devenir du monde et au ruissellement, etc., sur lequel il est revenu. Et c'est en ce sens-là qu'il est un peu à contre-temps, Macron, parce qu'il arrive. Il arrive avec la révolution numérique. Hein, il est jeune, c'est la génération du numérique, mais il ne voit pas du tout venir les difficultés du numérique, et même les GAFA, le pouvoir des GAFA, la dictature numérique en Chine, etc. D'un autre côté, il nous fait le coup quand même de la mondialisation économique, au moment même où avec Trump et d'autres, le protectionnisme est de retour, donc il y a quand même et seule l'Europe est ce qui reste de plus, je dirais, ouvert à l'économie mondialisée, non sans complications, et par contre, alors il a rattrapé son retard là-dessus, Lucille Schmitt, avec qui j'ai fait le livre, en parlerait mieux que moi, sur l'écologie. L'écologie, il nous fait le coup des Khmers verts, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en prise. Maintenant, il a changé. Je dois dire qu'il est aidé par des gens, moi, que je trouve tout à fait remarquables, un ancien d'Alternative économique, qui est Pascal Canfin. Hein, voilà. Mais Macron, il est à contre-temps, on voit très très bien, sur la mondialisation économique. Il ne voit pas du tout que les choses ne vont pas du tout dans le sens positif qui est le sien. Deux, sur la révolution numérique, il fonce de l'avant et vive la 5G et tout ça. C'est un peu plus compliqué, parce que moi, je pense que la révolution numérique, ce n'est pas l'objet de l'émission, c'est quelque chose de bien plus troublant. Et quelque part, avec le Covid, la révolution numérique, on la prend dans la figure. Et je crois, l'écologie, et je m'arrête, l'écologie, Macron, il est un peu en retard à l'allumage.
Puisque j'ouvre une parenthèse, Olivier Mongin, mais qui permet aussi de comprendre votre livre, vous l'avez connu, donc Emmanuel Macron, au temps de la revue Esprit, il était loin encore d'être
secret, il était l'un des rédacteurs de la revue Esprit.
Et on parle beaucoup de ses influences, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, littéraire, mais aussi philosophique, et notamment de l'influence qu'a eu Paul Ricoeur. Est-ce que c'est une influence que vous jugez positive? Est-ce qu'il a compris, finalement, Paul Ricoeur? Ou est-ce que les interprétations ne sont pas tout à fait les bonnes?
Non, mais moi, je crois après qu'il ne faut pas écrire des romans policiers pour intellectuels. Macron, je pense qu'il a été l'éditeur de Ricoeur, ce que tout le monde n'a pas voulu reconnaître, ce qui était ridicule. Il l'a été. Moi-même, j'ai travaillé aux éditions du Seuil. Il l'a été. Il a fait un travail remarquable. Ricoeur l'aimait beaucoup et réciproquement. Il dit que c'est la deuxième personne qui a compté dans sa vie avec sa fameuse grand-mère des Pyrénées, et je crois que c'est vrai. Hein, et c'est que Ricoeur était un homme tout à fait admirable. Après, moi, je ne pense pas que Macron, d'une certaine manière, ait pris la leçon de Ricoeur pour réfléchir sur la démocratie. Parce que s'il l'avait fait, je pense qu'il buterait sur beaucoup de choses, à commencer par la question de l'immigration, qui est quand même, où là, on le sait, il est plutôt sur une pente, non pas ultra sécuritaire, mais il suit un peu le mouvement sur sa droite. Ricoeur était quelqu'un pour qui la question de l'étranger, de l'immigré, était essentielle. On y reviendra peut-être. Je pense que c'était moins quelqu'un de porté par le concept, et on le voit bien, Macron, que c'était plus un littéraire, et puis homme de théâtre, et puis c'est son histoire personnelle qu'on connaît tous. Et je crois que c'est très important de comprendre ça, et d'être pas toujours allé chercher l'économiste, le banquier, le conceptuel. Non, Macron, c'est un homme de théâtre et qui aime, je pense, aussi le monde du pouvoir. Et moi, je préfère un président qui aime le pouvoir que quelqu'un qui s'ennuie à l'Élysée.
Alors, parlons du pouvoir, justement, Olivier Mongin. Emmanuel Macron est président de d'une 5e République, d'une constitution qui date de 1958, qui lui donne des pouvoirs importants, les pouvoirs présidentiels, peut-être les plus importants pour un président au monde. Cette organisation des pouvoirs est fort discutée, pour employer un euphémisme aujourd'hui.
Oui, alors là je pense, d'ailleurs on évoquera peut-être Ricoeur là-dessus, je pense que là, il y a un premier malentendu. Macron, il arrive, vous avez très bien dit, c'est la 5e République, un pouvoir fort, qui était un pouvoir pensé pour un homme, ne l'oublions jamais, un militaire, hein, c'est-à-dire un homme de discipline, un homme pour lequel le pays obéit ou n'obéit pas. D'ailleurs, De Gaulle, le pays ne lui obéissant pas, après un référendum, il dégage. Mmh. C'est très important, je dis ça, parce qu'à un moment où les retours de l'autorité passent beaucoup par l'armée, par la police, c'est-à-dire par les régimes disciplinaires où l'autorité n'est pas discutée. C'est très important de comprendre ça. Dans les livres de Jérôme Fourquet, dont on parle souvent, on voit très très bien que l'armée est une institution qui est très valorisée aujourd'hui. Elle rassure. Elle rassure parce que c'est un endroit où la discipline est valorisée. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que toutes les autorités en prennent plein la figure.
Alors que Jérôme Fourquet, par exemple, qu'on a écouté il n'y a pas très longtemps dans ce magazine, souligne aussi le besoin d'autorité qu'exprime la population.
C'est là toute la question. Vous avez tout à fait raison. Macron, il arrive, on n'est pas en 58, hein, on est en 2017. Et Macron, d'ailleurs, il cite Ricoeur à ce propos-là, il dit « la France est en mal d'autorité ». Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « on va, au contraire, renforcer le pouvoir que nous donne la démocratie, c'est-à-dire le peuple, qui va ressurgir avec les Gilets jaunes, le peuple. La souveraineté en France, c'est quand même le peuple en démocratie qui élit le président ». Et Macron, ce que je pense là où il y a une erreur complète, c'est qu'il ne comprend pas que le problème, ce n'est pas de renforcer le pouvoir comme autorité et le durcir. Hein. Il va dire il y a eu 68, tout s'est libéré, etc. Donc il faut revenir à l'autorité. Le problème de l'autorité en démocratie, même celle du président de la République, c'est la légitimation. C'est qu'elle puisse être reconnue. Et c'est ça la grande question. Et lui, au contraire, il n'aime pas trop les médiations, ce qu'on peut comprendre, et elles ne fonctionnent pas très bien. On n'est pas en Allemagne, on est en France. On n'est pas dans une social-démocratie qui fonctionne, qui est équilibrée. On pourra y revenir. La comparaison France-Allemagne est très importante. Et maintenant, France-Italie, avec le nouveau Premier ministre. Et Macron, il renforce la logique du pouvoir du haut en pensant que ça va marcher. Et là, il bute. Il va buter, d'ailleurs, ce n'était pas du tout prévu, sur les Gilets jaunes. Hein, qui, nous, on est les gens du bas, face au haut. Hein, et... Alors Macron, là, il a un peu, il faut le reconnaître quand même, la capacité d'organiser ce grand débat où tout le monde fera des critiques ou pas. Le problème, chacun pense qu'il veut.
Oui, pour savoir ce que sont devenues les propositions.
Il a quand même su rentrer dans l'arène. Il rentre dans l'arène. Mais Macron, c'est un homme de rapport direct. Et c'est là qu'on retrouve son machiavélisme au bon sens du terme. Hein. Pour moi, Machiavel, c'est pas n'importe quoi. C'est comment être capable d'agir quand on est en haut. Ou alors, on dit, même ici, devant le micro, il n'y a plus d'autorité, il n'y a pas de pouvoir, la démocratie directe partout. Non, il y aura toujours de l'autorité. Moi, c'est ma position personnelle. Mais l'autorité politique, c'est pas n'importe quelle autorité. Alors, le problème de Macron, c'est exactement ça. C'est de ne pas comprendre qu'il a besoin d'un surcroît de légitimité. Et lui, au contraire, il a tendance à en rajouter dans un pays, je pense qu'il le savait avant, dont on découvre qu'il est quand même pas maladroit, que les questions de sécurité et la demande d'autorité dont vous avez parlé, elle est essentielle. Et puis dans un pays où la crise des autorités, ce n'est pas que les autorités politiques. Je vous rappelle qu'on a aujourd'hui, bon, ça, ce n'est pas nouveau, moi-même venant de ce monde-là, on a quand même la crise de l'Église catholique, qui est quand même très importante. Je pense que la crise de l'éducation républicaine, on le voit tous les jours avec les débats sur l'éducation nationale, elle est très importante aussi. La crise des autorités, l'affaire Olivier Duhamel, elle a quand même eu des effets sur une école qui est celle de la formation des élites, qui est Sciences Po.
Sciences Po, hein.
C'est-à-dire, et je pense qu'aussi, il y a une autorité qui aujourd'hui, je ne dis pas ça devant vous et pour RFI, mais qui est un peu défaillante, c'est l'autorité des journalistes. Je pense que moi, si vous voulez, il y a 15 ans, grand lecteur de ma génération du Monde, etc., pour qui la presse a compté, ayant animé une revue généraliste, on avait quand même des journalistes qui faisaient autorité. Moi, je dis un peu, vous allez peut-être me démentir là-dessus, moi, je pense qu'il y a 20 ans, Zemmour, on aurait eu des papiers dans la presse, signés par les Ricoeur, les Claude Lefort, ou je vais citer, ou des politiques, des gens de grande gamme. Ça aurait calmé un peu le jeu. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. On va avoir 40 reportages par jour sur qui est la compagne de Monsieur Zemmour, qui sont les gens qui ont formé Zemmour. Bon, ce qui n'est pas sans intérêt, puisqu'on voit derrière quand même toute une série, effectivement, d'idéologies catholiques et autres, bizarroïdes, qui ressortent. Les autorités, elles ressortent sur un mode dur. C'est ça qui est aussi très important.
RFI et nous parlons dans ce numéro d'idées d'Emmanuel Macron et plus précisément de l'époque Macron, du temps Macron avec Olivier Mongin. Olivier Mongin, le président n'a-t-il pas en quelque sorte découvert la France durant son mandat depuis 5 ans? Je crois même d'ailleurs qu'il l'a confessé.
Oui, mais moi je pense que c'est vrai et ça...
C'est quand même insolite parce que les prédécesseurs avaient soit été députés ou en tout cas longuement dans la vie politique. Donc ils s'étaient fait à la France, ils connaissaient la France. Lui semble avoir découvert la France en exerçant ses fonctions.
Oui, mais...
D'où les malentendus parfois.
Là, je serais peut-être un peu vachard, mais je dirais qu'il ne suffit pas d'être député pour connaître la France. Parce qu'au contraire, on a assisté quand même à une grande démagogie, je pense. Je dis bien qu'il y a un problème des territoires, mais on s'est installé... Et ça, c'est tous azimuts. On s'est installé dans l'idée qu'il y avait la capitale contre les territoires. Les Gilets jaunes, il ne faut jamais l'oublier, c'est la montée vers la capitale, c'est l'occupation de la capitale, ce n'est pas un mouvement girondin pour autant. Mais moi, je pense qu'on en a rajouté dans une opposition très très forte entre l'État central dans la ville capitale et les territoires. Ça ne veut pas dire que les territoires sont au-dessus de tout soupçon, comme on nous le fait croire en permanence. Je pense au contraire que les territoires sont souvent des petits États, des petits micro-États. Ça vaut pour les régions, les départements et tout ça.
Et vous notez très bien dans ce livre écrit avec Lucie Schmitt, Olivier Mongin, que en matière de démocratie représentative, la France n'est pas si mal lotie que ça. Et vous précisez même qu'elle est même en surreprésentation politique.
Oui, alors ça, tout le monde ne comprend pas toujours ce qu'on veut dire. Bon, on dit qu'il y a une crise de la représentation politique, comme vous venez très bien de le dire.
Pourtant, on ne manque pas d'élus en France.
Voilà. Et quand on regarde de près, ce qui est le problème, c'est bien de voir qu'il y a... bien sûr qu'on voit très bien que l'abstention, elle est là. Il y a une crise de la représentation politique. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en manque de représentants. Et il y a au contraire, je dirais presque, une surcharge aujourd'hui de la représentation. On le voit très bien quand on voit un peu en province. Les gens ne comprennent plus rien à ce que sont les intercommunalités.
Les métropoles,
ce qu'on voit par contre, c'est le département dont on avait annoncé la disparition. Il est revenu en force depuis Sarkozy. On voit très bien le rôle dans un monde qui est très en demande de sécurité, le rôle des préfets. Tous les jours, on nous parle des préfets, dont on n'en parlait pas il y a 20 ans. Le préfet, il est devenu aussi important qu'un député, ce qui quand même pose un petit problème. Moi, je pense qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle dans le livre avec Lucille Schmitt, une espèce de confusion territoriale. C'est-à-dire qu'il y a une surcharge de la représentation. À un moment même où les gens, les générations sont plus celles, la mienne, où les gens étaient encore disciplinés, pris dans des schémas d'autorité, où il y a la demande démocratique, elle est de plus en plus forte, hein, de la part des gens plus jeunes, on le voit dans les mouvements écologiques, etc. Alors on a un problème justement d'une classe politique qui est de plus en plus, d'une certaine manière, isolée, hein, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien. On voit très très bien à Marseille ou ailleurs, il y a des choses qui se font. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, mais elle n'est plus en capacité de dynamiser. Et une société elle-même qui est rétive et qui, effectivement, réinvente beaucoup de choses. Elle n'est pas du tout inactive. C'est les chapitres qu'a fait Lucille Schmitt. Il y a une société très active, mais qui a de plus en plus de mal à accepter l'idée d'institution ou de médiation. Or, une démocratie, elle a besoin d'institutions.
Oui, parce que vous notez aussi avec Lucille Schmitt et Olivier Mongin que les Français, contrairement à ce que l'on peut penser, ne se désintéressent pas de la politique. C'est dans l'expression que se pose la question.
Non, bien entendu. C'est dans c'est dans l'invention de nouvelles formes de représentation. Alors bien sûr, via les Gilets jaunes et le grand débat, on a eu 1000 réflexions, la Convention climat, sur la délibération, etc. Mais après, on voit très très bien qu'on bute sur... Tout le monde ne va pas faire non plus sa petite organisation démocratique. On est quand même dans une communauté nationale où on ne l'est pas. Et ça, c'est aussi la très grande difficulté. C'est que l'inventivité démocratique, aujourd'hui, je dirais, elle part un peu dans tous les sens. Et elle est très individualisée. Je ne dis pas individualiste, que moi je ne crois pas à ça. On est tous dans une société. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est la crise du vivre ensemble. C'est le vrai problème, au-delà de ce que nous venons de dire, la crise de la représentation politique, alors qu'il y a plutôt surcharge de la représentation, hein, c'est que la vraie crise, c'est la crise de l'imaginaire historique. Et là, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire, aujourd'hui, ce pays, il fait quoi par rapport à l'Europe, il fait quoi par rapport au monde. Et on est quand même un pays où même la classe intellectuelle, la majorité des intellectuels, peut-être pas ceux que vous recevez ici, mais sont des souverainistes purs et durs, très obtus. On est dans un monde aujourd'hui où la question de la souveraineté populaire est de plus en plus tirée vers l'identité. Et l'identité close, c'est pas pour rien que Zemmour arrive. Zemmour, il nous dit « Ah, mais notre histoire est en déclin ». Là où Zemmour, il faut quand même l'écouter, parce que c'est ce qu'on appelle les questions idéologiques dont parlait le vieux Gramsci, c'est quand même, Zemmour, il nous rappelle que la question de l'histoire, elle est fondamentale.
D'ailleurs, vous écrivez, la France est en mal d'histoire, en quelque sorte.
Moi, c'est la thèse, au fond, pour faire le lien avec ce que vous disiez avant, qu'on défend. Il y a une crise de la représentation politique, oui, abstention, ça ne veut pas dire qu'il y a inaction politique, et en haut et en bas, mais la vraie crise, c'est une crise de la représentation historique. C'est l'incapacité de se projeter dans un devenir. Il n'y a pas de société qui tienne en tant que communauté. Et jusqu'à nouvel ordre, il y a un État, il y a une nation, on ne va pas refaire ici l'histoire, il y a une communauté nationale. Cette communauté nationale, est-ce qu'elle est uniquement là, repliée sur elle-même, complètement prostrée, ce que nous laisse croire aujourd'hui toute l'idéologie d'extrême droite ou même d'une certaine droite. Même on voit très bien comment Mme Pécresse, dès lors qu'elle est conseillée par M. Ciotti, ça donne quand même des positions identitaires et sécuritaires assez inquiétantes. Et est-ce que la nation française, c'est une nation complètement prostrée sur elle-même? Mais bien sûr que non, ça ne devrait pas être le cas. Mais on n'a aucun imaginaire historique qui essaye de nous sortir de cette situation, alors même, je reviens au début, que le Covid, justement, c'est notre entrée dans la mondialisation.
L'imaginaire historique, Olivier Mongin, certaines de nos auditrices, certains de nos auditeurs vont peut-être se dire « Oui, mais Emmanuel Macron n'a pas cessé pendant son quinquennat de célébrer l'histoire, de commémorer. »
Ah oui, mais moi, quand je parle de l'imaginaire historique, c'est pas uniquement faire l'histoire des grands hommes. D'ailleurs, ça change d'un président à l'autre. Et il y en a des grandes dames qui sont au Panthéon. Moi, j'ai bien connu Germaine Tillon et c'est l'occasion de la saluer. Bien sûr qu'il y a des grands hommes, des grandes dames, il y a des grands événements. Faut voir après aussi que très souvent, l'histoire, elle n'est pensée qu'en fonction, quand même, on le voit, l'histoire, elle est pensée en fonction quand même des guerres, etc. Il suffit de se promener. Aujourd'hui, le tourisme français, ça consiste à aller dans les églises et de voir un peu les bâtiments, je veux dire les monuments aux morts. Il faut peut-être arriver à penser une conception de la nation qui ne soit pas liée qu'à la question de la guerre avec les autres nations. Il s'agit de repenser un petit peu la question de la nation en rapport à la paix. Bien sûr qu'on en est loin, mais c'est là où la question de l'immigration est centrale. Parce que la question de l'immigration, elle nous ramène, et là, Ricoeur a écrit des choses tout à fait remarquables, elle nous ramène à la question du rapport à l'étranger. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières, tous azimuts, c'est pas ça du tout la question. Il s'agit quand même d'avoir là-dessus une politique qui soit un petit peu plus humaine que celle qu'on est en train de mettre en place. Et ça vaut pour l'Europe. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va passer de la souveraineté française à la souveraineté européenne. Macron, le double discours sur la souveraineté. On voit très bien que l'Europe se bunkérise pas mal. Et ce n'est pas RFI qu'on n'insistera pas là-dessus. Parce que je pense que cette question, elle est décisive.
Alors, décisive. Comment conjuguer, Olivier Mongin, c'est aussi dans votre essai, Emmanuel Macron à contre-temps, comment concilier ce besoin d'initiative locale, d'engagement à l'échelle locale et cette 5e République qui tourne autour d'un président et un des reproches qui est fait à Emmanuel Macron, c'est d'avoir été jusqu'au bout en matière d'exclusion du Parlement de la vie politique française.
Oui, tout à fait, mais le Parlement ne lui rend pas toujours la vie facile. On le voit bien là dans chacun des débats. Mais effectivement, mais moi je reviendrai quand même à un point, de même que j'ai insisté sur le fait que la mondialisation économique, c'est pas ça la mondialisation, qu'il faut quand même un beau jour commencer à se confronter à l'histoire qui est la nôtre, une histoire planétaire dans un monde fini. C'est au moins ce que l'écologie nous apprend. Moi, je rappelle quand même souvent, je pourrais citer les bons auteurs qui nous ont éclairés là-dessus, qu'il y a un tournant qui a été pris qui date de 1983, qui est le tournant néolibéral. C'est-à-dire que c'est pas nouveau non plus tout ce qui se passe. On a l'impression que la France, elle n'en finit pas de repousser des échéances. Le tournant, il a été pris par un gouvernement de gauche, par François Mitterrand. C'était le tournant qui a consisté en quoi ? À renvoyer, au fond, ce pays, il est très difficilement gouvernable. Il est très mal gouvernable. C'est ça hein, que découvrait la social-démocratie. Elle ne fonctionne pas très bien chez nous. On n'est pas en Allemagne. Hein, mettre le capitalisme et les travailleurs autour d'une table de travail, les syndicats, c'est très difficile. Et on voit très bien, tout le monde le dit aujourd'hui, avoir une coalition, hein, une coalition comme il y a en Allemagne. Vous avez un libéral, vous avez un social-démocrate et vous avez un écologiste. Imaginez ça en France. Non. Alors qu'à gauche, même... Bon, je ne vais pas insister là-dessus ici. Non. Alors qu'à gauche, on ajoute un candidat tous les jours. Hein. Donc on a 1983. Ça nous ramène à quoi ? Et ça fait quoi des choses qu'on a pu dire ? Mais au fond, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est qu'au fond, on va de moins en moins faire de la politique depuis chez nous, depuis le Parlement. La crise de la démocratie parlementaire, elle est déjà très forte. Et au fond, on renvoie à quoi ? On va renvoyer à l'Europe. Et l'Europe, ben, les citoyens ne sont pas très bien informés, souvent, et moi le premier. Mais l'Europe, elle fait beaucoup des choses qui font que le gouvernement doit les suivre, etc. D'un côté, on a une Europe qui est très critiquée, on le sait très bien. On a des référendums qui l'ont montré. On a une Europe mais qui continue à travailler le politique français. Et de l'autre côté, on a quoi ? On a la démocratie d'opinion. Démocratie d'opinion, ça veut pas. Moi, j'en arrive pas du tout à une critique des médias tous azimuts, parce qu'au contraire, je pense que les médias ont un rôle de médiation, mais qu'ils sont en train de perdre de plus en plus à cause des réseaux sociaux, à cause de mille choses qui sont liées à la révolution numérique. On a donc quand même un pays politique qui est un pays écartelé entre d'un côté l'Europe, qui décide beaucoup de choses pour nous, et une démocratie d'opinion, ben, ne nous trompons pas, qui fait pression. Macron, à contre-temps, depuis quand même deux ans, on a encore vu cet été avec les motos et tout ça. Macron, il cède à peu près à tous les lobbies. Hein, alors, vous me direz, il prépare ça. Mais c'est un peu ça, le problème. C'est-à-dire qu'on a, même de la part de Macron, qui était un petit peu le gouverneur, celui qui dit, moi, on va repartir du haut et vous allez voir ce que vous allez voir. On a l'impression qu'il recule à peu près dans tous les domaines. Et que sur la sécurité, il est incapable de nous tenir un discours, pour l'instant, qui donne un peu sens historique à ce qui est en train de se passer dans ce pays.
Ce qui a beaucoup changé aussi, Olivier Mongin, ces dernières années, c'est la notion du temps. Vous en parlez également dans ce livre. Comment gouverner dans un monde divisé entre le haut et le bas, avec cet enjeu écologique avec l'Europe, alors que cette notion de temps a changé. On ne gouverne plus aujourd'hui comme on gouvernait il y a encore 10-15 ans avec les réseaux sociaux, mais aussi avec les chaînes d'information en continu. C'est devenu difficile.
Non, mais là, c'est indéniable. C'est indéniable. Il y a une question qui est liée à la temporalité. Et justement, on pourra dire c'est un peu facile de réclamer de l'histoire, de l'historicité, etc. Le problème de l'histoire, c'est d'être capable de lier un présent, un passé et un avenir. Hein, et aujourd'hui, on voit très bien la difficulté. Soit on est tiré vers l'arrière, on a l'impression que la France est un pays avec une tradition universaliste intouchable, et puis ça donne autrement les discours de Zemmour, sur lesquels je ne vais pas revenir. Chacun invente son histoire identitaire, mais complètement figée. Autrement, on a le rythme. François Hartog, l'historien que vous connaissez certainement mieux que moi, a parlé très bien du présentisme. Le présentisme, on n'en sort pas. Hein, et c'est là où moi je pense quand même que le Covid, il nous fait bouger quand même le rapport au temps. Hein, ce qui nous trouble quand même. Si vous voulez, soit on croit qu'on réinvente l'histoire merveilleusement, en permanence, avec des grandes utopies, etc. Soit, je pense, il y aura des thèmes de Ricoeur, soit on pense que l'histoire, elle ressort à travers les troubles. Et moi, je pense qu'on est à RFI. Pour moi, vous savez, les intellectuels aujourd'hui, les plus importants sont souvent des intellectuels issus des pays qu'on qualifiait d'émergents. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, souvent. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les intellectuels indiens, à commencer par Amartya Sen, puis quelqu'un qui s'appelle Arjun Appadurai. Il a écrit un livre qui s'appelait « Géographie de la colère » en 2006, si je ne me trompe pas. Lui, il disait déjà, mais on est dans un monde mondialisé, c'est-à-dire c'est un monde qui est à plat. C'est un monde où tout s'articule, c'est un monde où tout s'entrechoque, c'est un monde où tout... Et lui, il disait, mais... C'est très intéressant, il disait, mais la viralité, c'est notre avenir. Nous, on découvre le Covid, la viralité. Et il donnait 3 exemples, sinon 4. Il disait, la viralité, c'est quoi? C'est les pandémies. Je remarque que quand vous lisez Lévi-Strauss encore aujourd'hui, à l'époque, tous les grands anthropologues, Ricoeur, ils parlent beaucoup des pandémies. C'est des choses qui faisaient partie de leur imaginaire, hein, et de la réalité, bien entendu. Donc, à Padouraille, la viralité, c'est les pandémies. C'est quoi ensuite? Il avait très bien vu. Ils étaient beaucoup en avance sur nous, sur la révolution informatique. Les bugs informatiques, qui vont donner après cybersécurité, cyberguerre. On a plein de très bons livres là-dessus, à commencer par les travaux de Hesbourg, etc. Et on peut continuer. C'est aussi la question du climat. C'est, etc. Et c'est la question numérique que j'ai évoquée. Mais on voit très très bien que la question de la viralité, ce n'est pas que le problème médical qui arrive aujourd'hui. La viralité, elle est partout. Hein, et donc, c'est peut-être une manière de reprendre des questions en réfléchissant un petit peu sérieusement, là. Et pas uniquement en disant « retour au local », ce que font certaines personnes. Oui. « Retour au corps, au local ». Et c'est pas que je vais me protéger, mais je vais vivre dans ma ferme tranquillement. Je caricature, bien sûr. Je pense que la question, c'est de réarticuler global et local. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est un monde où les techniques, elles travaillent un peu partout dans le monde, à des vitesses différentes. Et le problème, c'est de les traduire politiquement dans des histoires nationales qui ne sont pas au même rythme.
Parce que ce mouvement, Olivier Mongin, alimente aussi la peur. Et alimente aussi cette nostalgie, alimente aussi cette frilosité, en fait, d'une partie
tout
de la population.
Je suis entièrement d'accord. Et c'est là où la nécessité de comprendre comment le rapport au monde change en fonction... de la découverte que nous faisons de nouveaux mondes, qui c'est pas simplement l'Européen qui part en Amérique latine comme à la grande époque, c'est terminé, Christophe Colomb. Découverte de nouveaux mondes, c'est entendre de nouveaux langages, c'est être capable de les traduire. Et moi, je pense que la question qui est centrale, qui vaut pour la culture et pas uniquement pour la langue, c'est la traductibilité. Ça, c'est un des grands thèmes de Paul Ricoeur. Ce qui fait l'institution humaine, c'est le langage. Mais le langage, c'est aussi la capacité que nous avons de nous traduire. Bon, je pense qu'à RFI, ça a beaucoup de sens. Hein, vous avez des chaînes... Mais le problème, c'est de faire ce travail de traduction en permanence. Hein. Et la traduction, c'est des types de temps. Tout le monde n'est pas dans le même registre, au même rythme. Et peut-être que nous... Moi, j'étais très sensible à des réflexions d'amis sud-américains là-dessus. Peut-être que nous avons... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes urbains, à réapprendre des modes d'habitabilité qui sont encore existants. Je ne parle pas pour la Chine, mais dans des pays africains ou autres, où il y a un rapport à l'espace public, à l'espace proche, etc., qui sont très importants. C'est-à-dire que nous avons à apprendre, nous sommes en train de, je dirais, peut-être nous asphyxier sur un certain mode de vie qui a pu être le nôtre. Nous avons à réapprendre de mondes qui ne sont pas les nôtres, qui vivent à d'autres rythmes, dans d'autres temporalités. Mais simplement, il ne faut pas les hiérarchiser. Nous avons à réapprendre beaucoup de choses. Et c'est peut-être ça qui se fera avec des écrivains, avec des intellectuels, avec des journalistes, voilà.
écoutez RFI, le magazine Idées, et avec notre invité, le philosophe Olivier Mongin, nous parlons d'Emmanuel Macron, mais pas sous l'angle strictement politique. Nous parlons du temps Macron, de l'époque d'Emmanuel Macron, de la France également, de son quinquennat. Et Olivier Mongin, il y a une question qui est décisive avec Emmanuel Macron, c'est une question qui touche au rôle de l'État. N'est-il pas en train de remettre en question le poids de l'État en France? On sait qu'il est grand. C'est en tout cas ce que lui reprochent beaucoup d'opposants. Et je pense notamment, il pense notamment à la réforme de la haute fonction publique.
Là, je pense qu'il y a eu aussi un malentendu, on l'évoque au début, concernant Macron. Moi, je l'ai dit assez vite, Macron, d'ailleurs, quand il dit en même temps, il ne faut jamais oublier, il a un côté rocard, société civile, ce qu'on appelait la deuxième gauche autrefois, et un côté chevènement, État fort. Hein. Il a les deux. Il ne faut jamais oublier, il a été militant dans un parti lié à chevènement. Macron, c'est l'État et la société. Mais comme vous le dites très bien, sans les médiations.
Oui, certains disent aussi que Macron, c'est peut-être aussi le gouvernement des experts à l'heure néolibérale. C'est-à-dire, ce sont les spécialistes qui gouvernent autour d'un pouvoir central, le reste, on l'oublie.
Non, ça, c'est pas faux. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais je dirais que c'est un mouvement aussi. Je reviens à 83, ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que Macron est à l'origine de la crise de l'hôpital. Hein, la réforme de... tout ce qui a été mouvement de privatisation de ce qui relevait de l'État sur le plan économique, c'est quand même pas Macron. Alors bien sûr qu'il l'a accéléré dans certains cas. En même temps, beaucoup de gens étaient surpris avec le Covid de voir le Macron revenir avec l'État. État social, on dessert la bourse, etc. Macron, il peut jouer des deux. Mais vous avez entièrement raison, le problème, c'est les articulations. Hein. Et c'est là où la question du rapport État-territoire est tout à fait centrale. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent quand même que si on n'a pas une réforme profonde des territoires, et ça veut dire de l'articulation des territoires... Normalement, dans ce pays, si on faisait les choses normalement, on devrait, pour les présidentielles, avoir un débat. C'est quoi les compétences aujourd'hui? Dans l'État où on est, on devrait être capable de réviser notre cahier de charges politique. C'est quoi les compétences? Pour qui? Pourquoi? Pourquoi la région a ça? Aller expliquer à quelqu'un ce qu'a Madame Pécresse en tant que patronne de la région Île-de-France. Pourquoi elle s'occupe des lycées et pas de tel truc? Il y a quelque chose qui est complètement désarticulé dans l'organisation de la vie politique. Et moi, je pense que Macron... s'il avait une tête machiavélienne, c'est sur ces choses-là qu'il faudrait qu'il reparte. À la fois sur une réflexion sur le devenir monde, où il ne s'agit pas d'aller taper dans le dos de Trump et de Poutine, on a vu que ça ne s'était pas si bien passé que ça, et de l'autre côté, c'est de reprendre quand même la question de l'intérêt général, si ça a du sens. Si ça n'a pas de sens, ben très bien, on va vers des sociétés qui vont se durcir, qui vont se rigidifier, avec des budgets concernant l'armée, la police qui vont monter, des sociétés de plus en plus sécuritaires, et puis une population qui va manifester à tout vent pour, dès que quelque chose n'ira pas, légitimement ou pas, la question n'est pas là. Et moi, c'est ça qui me fait très peur, c'est ce craquellement. C'est craquellement. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez, qu'il faut aussi que dans certaines institutions, on repense la notion d'autorité comme venant des institutions, et pas toujours de la politique en haut, à la Macron, si vous voulez, justement. Et là, il y a quand même un problème français, je pense même... moi, honnêtement, je pense quand même qu'on ne peut pas... poser la question de l'autorité uniquement comme si c'était la politique qu'on était responsable. Toutes les institutions éducatives doivent reprendre cette question-là. Ça veut dire quoi, l'autorité? Ça veut dire être capable, moi, puisque j'ai une supériorité par rapport à toi, en quoi je suis capable de me faire reconnaître? En quoi je suis légitime? Ben aujourd'hui même, on le voit dans l'éducation, un prof est évalué, il faut qu'il me prouve sa légitimité, on peut discuter de ça à l'infini, mais la question de la légitimité des autorités est fondamentale. Alors aujourd'hui, regardez, la crise de quand même ce qui a structuré la République française, la contre-culture catholique d'un côté et la culture républicaine, elles sont toutes les deux très fatiguées. Alors c'est ça qui faisait un petit peu qu'on avait un imaginaire historique qui... Et là, on a vraiment un problème de... Et moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'étranger là-dessus, des intellectuels que j'ai évoqués tout à l'heure.
La question est de savoir, et vous y faites référence aussi, Olivier Mongin, c'est de savoir si on s'oriente à nouveau vers Rousseau et son contrat social, ou est-ce qu'on s'oriente une bonne fois pour toutes vers Hobbes et l'autorité au nom de tous?
Oui, oui, mais on est d'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'écrivait Ricoeur il y a déjà longtemps, une vingtaine d'années, on est revenu à Hobbes. On a oublié un peu Rousseau. Mais encore faut-il quand même bien réfléchir, ce que font tous les gens qui font quand même réfléchir sur la politique et croient pas que c'est une science qui repose uniquement sur des statistiques et tout le cirque. Le problème du contrat social de Rousseau, faut jamais l'oublier, c'est qu'il est idéal. Il est idéal.
Oui, c'est un but à atteindre, en quelque sorte.
Oui, mais on retrouve la question que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celle de la communauté historique. Le problème, bien sûr que le jour du vote, on va se retrouver, en dépit de l'abstention, on a l'autorité du pouvoir, elle passe donc par le vote souverain du peuple, mais le problème, c'est comment on fait histoire avec cette délégation que je fais, effectivement, aux représentants. Et un très bon politiste, qui est parti des gens qui, à l'époque, pensaient quand même la politique un peu philosophiquement, et il rappelle quand même que, justement, Bernard Manin, le gouvernement représentatif, il est hybride. C'est tous les grands débats qu'on a au XIXe siècle, depuis Sieyès. Il est à la fois direct, puisque c'est moi qui élis, mais en même temps, il est indirect, et vous avez tout à fait évoqué le problème tout à l'heure, puisque dès lors que je délègue, je donne un aval à celui qui va agir pour moi, je lui laisse le temps. Mais aujourd'hui, on ne laisse pas le temps.
Parce que, effectivement, on peut expliquer ça en disant que c'est la 5e République, mais ces propos d'Emmanuel Macron en disant « je veux emmerder ceux qui ne se sont pas vaccinés », on avait vraiment l'impression que c'est le dialogue entre un homme et un peuple. Donc ça donne vraiment l'impression que, finalement, la 5e République et les institutions françaises ne sont jamais vraiment sorties de la monarchie.
Non, oui. Moi, je pense qu'on est. Les gens savent qu'on est sorti de la monarchie. C'est aussi pour ça qu'ils réagissent. Hein, la monarchie produisait plutôt la servitude volontaire. Je pense que Macron là-dessus a tort. En tout cas, en tant que président, il a tort. Hein, son travail, c'est quand même d'essayer de pacifier. C'est difficile. Après, ce que je dois reconnaître, c'est qu'on est quand même depuis. Et Macron n'est pas responsable nécessairement de tout. On est depuis, c'était pas le cas avec Hollande, on est rentré dans un climat de radicalisation politique qui est tout à fait insupportable. Et je suis désolé, moi, je fais partie des gens qui trouvent inadmissible au moment des Gilets jaunes qu'un député comme François Ruffin aille devant un ministère, ou devant l'Élysée et dire il finira comme Kennedy. Il y a des choses, il y a des interdits.
Oui, vous avez vu les attaques qui se multiplient contre les élus depuis.
Oui, non, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a des interdits et que le problème, il faut déjà les respecter, mais qu'effectivement, on ne peut pas vivre qu'avec des interdits. Hein, c'est ça le problème. Et bien sûr, moi, je pense qu'on est dans un climat de radicalisation. Et là, peut-être plus que d'autres, je pense qu'on vit beaucoup plus que d'autres pays dans un climat, une fois de plus, je ne parle pas pour RFI, de saturation médiatique qui est quand même assez catastrophique. Les gens n'en peuvent plus.
Qui pose effectivement un problème démocratique, là, pour le coup.
Oui, je pense qu'il pose. Macron n'est pas responsable. Moi, je dis, si vous voulez, dans le chapitre que l'on fait sur la saturation médiatique, je rappelle au moment de Bolloré, l'affaire Bouygues, Michel Pollack, l'un de vos collègues, n'oubliez pas qu'il a été viré de la chaîne parce qu'un beau jour, il a dit ce qu'il n'avait pas le droit de dire, etc. Moi, je dis aujourd'hui, les vrais patrons, Macron, il peut être vilipendé aujourd'hui à la télé, à la radio, ça dérange personne. Il peut recevoir des claques. Vous ne toucherez pas à Bolloré. Vous ne toucherez pas à Bolloré. Et là, ça pose des questions aussi aujourd'hui. Moi, je suis très sensible à ça. Je ne suis pas spécialement un vieux marxiste, mais je suis très sensible au rachat de pas mal de journaux.
Concentration des médias et des maisons d'édition.
Maisons d'édition. Parce que là, on retrouve des bons vieux thèmes qui sont quand même ceux du XVIIIe siècle, de la Aufklärung. Et là, on pourrait peut-être se réveiller. La Aufklärung, c'est d'abord la liberté d'expression, de la liberté d'association, etc. C'est ces choses-là qu'il faut défendre. C'est ces libertés-là. Celles qui n'existent plus, qui n'ont jamais existé en Chine depuis un moment, celles qui disparaissent dans certains pays, et même dans des pays européens, voire le débat avec la Pologne. C'est aussi ça que, quand on dit que la démocratie, elle est rongée de l'intérieur, c'est ça aussi qui est fondamental. C'est-à-dire, si j'ai plus la capacité de m'exprimer, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je pense qu'on est dans une situation qui est quand même très complexe là-dessus. Et ça ramène à la question de la démocratie, puisqu'on a beaucoup cité Ricoeur, je m'autorise à le faire encore. Si nous ne sommes pas capables d'argumenter entre nous, on dit n'importe quoi. Et moi, je vois que dans beaucoup de domaines, il n'y a pas un accord minimal sur un langage pour parler de ce dont on croit parler. Et on voit bien aujourd'hui, c'est pas pour rien que le problème de la croyance, de la crédibilité. J'ai dit dès le début, le pouvoir, il faut qu'il soit légitime. Mais les convictions ou ce que le pouvoir me dit, il faut que ce soit crédible. C'est la même question. Ce n'est pas une question économique, le trust, la confiance. C'est une question politique fondamentale. Et le problème aujourd'hui, c'est que la confiance, elle est fragilisée. Et donc je retrouve cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un vivre ensemble ? Qu'est-ce que c'est qu'un vivre ensemble qui ne part pas du côté de Hobbes, mais revient à Rousseau pour essayer de former, de constituer un ensemble historique. Mais l'ensemble historique, il faut des défis. Mais je crois que les défis, dans le monde, il y en a.
Effectivement, Olivier Mongin, défendre la démocratie à l'heure de l'antidémocratie. Donc, merci.
Bah, c'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir.
Vous avez écrit avec Lucie Schmitt, Emmanuel Macron à contre-temps, ce livre publié aux éditions Bayard. Idée réalisée par Vanessa Rovensky, bien sûr. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité du monde sur RFI. RFI, la sélection.